Il y a quelques années, donc nous sommes ici en Tunisie, ça fait 18 ans, presque 19 ans cette année. Il y a quelques années, j'étais ami avec l'archevêque de la cathédrale, l'archevêque catholique. Et à ce moment-là, c'était dans les années 2010-2012, il était impliqué de ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. C'est-à-dire, il faisait partie des conférences où on parlait des différentes religions et surtout le dialogue entre chrétiens et musulmans. Et il m'a raconté une histoire. Un jour, il était ici à Tunis pour une grande conférence interreligieuse entre chrétiens et musulmans. Je ne sais pas s'il y avait des juifs qui étaient là aussi, parce que vous savez, peut-être il y a des juifs, une minorité, qui sont ici en Tunisie. Mais ce jour-là, il n'y avait que des musulmans et lui, il était le seul chrétien. Il vient de Palestine, donc il est palestinien et donc il parle arabe comme ça, c'est sa langue maternelle. Donc il est palestinien, mais il a grandi en Jordanie. Il parle arabe couramment. Et ce jour-là, à la fin de la conférence, il m'a expliqué qu'il y avait un homme qui s'est levé. C'était l'ambassadeur du Maroc à l'époque, et il commençait à parler de Jésus. Et dans son discours, c'était le dernier intervenant de la conférence, il disait quelque chose comme ça, que nous les musulmans, donc il parle des musulmans, il dit « nous les musulmans, on croit en Jésus ». Mais les chrétiens, nous les musulmans, nous croyons à tous les prophètes, y compris Jésus. Mais vous les chrétiens, mais lui il était le seul chrétien, hein? Donc vous les chrétiens, vous ne croyez pas à notre prophète. Et l'évêque, il voulait dire trois mots de plus, il dit, mais juste donne-moi trois minutes pour que j'explique quelque chose. Et donc, on lui a donné la place et il a expliqué. Et il a expliqué ceci. Il est venu devant tout le monde. Il a dit, en tant que musulman, vous devez croire au Coran. Vous devez lire le Coran comme vous devez croire à Jésus tel qu'il est présenté dans le Coran. Mais il a dit, mais le problème c'est que la façon dont Jésus est présenté dans le Coran et la façon dont les évangiles présentent Jésus, c'est différent. Il a dit, c'est pourquoi que les chrétiens, quand vous parlez de croire en Jésus, en fait, on a une autre image de Jésus dans les évangiles que dans le Coran. Après la conférence, il y a quelqu'un qui est venu, un prof qui est venu, professeur qui est venu le voir pour dire, mais qui est Jésus ? Selon les évangiles, alors. Et puis, il lui a expliqué qui était Jésus selon les évangiles. Vous savez que quand il s'agit de parler de Jésus, tout le monde est content. C'est-à-dire, vous pouvez parler de Jésus à un bouddhiste, hindou, musulman, chrétien culturel. Enfin, vous pouvez parler de Jésus. Et vous pouvez parler de les histoires, les belles histoires qu'il a racontées. Vous pouvez même parler des miracles. Vous pouvez parler de la façon dont il était gentil avec des enfants, hein, n'est-ce pas? Il était gentil avec des enfants. Mais dès que tu commences à toucher, à dire que Jésus, il est plus qu'un prophète, là, il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Nous sommes en train d'étudier le livre, l'évangile de Marc. Et dans Marc chapitre 1, le verset 1, lui, il dit des choses clairement. Il dit, voilà l'évangile de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Selon Marc, il dit, Jésus-Christ, fils de Dieu. J'habite en Tunisie depuis quelques années et toujours on me dit, quand on parle avec un musulman, il y a certains versets dans le Coran qui disent il faut que Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant. Et donc, de dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est très choquant. Marc, il ne savait pas ça, en fait, parce que lui, il dit déjà, dès le début, le premier verset, il est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Et petit à petit, on voit dans l'évangile de Marc que Jésus, il est un peu plus qu'un prophète, beaucoup plus qu'un prophète même. On a vu qu'il a le pouvoir de guérir les malades. Je ne sais pas qui était avec nous quand Armand il a prêché sur la guérison, c'était sur Zoom, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Que pas seulement il a guéri le malade, mais il... Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a fait quand la malade était descendue par le 3. Pardon? Il a pardonné ses péchés. Pourquoi les gens étaient choqués? Parce que pardonner les péchés de quelqu'un était réservé pour Dieu. Dimanche passé, avec le pasteur Case, on a vu que Jésus, il se présente comme le Seigneur, le maître du sabbat, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les gens hésitaient, les chefs religieux voulaient le rejeter, c'est parce que c'était de la blasphème. Aujourd'hui, on va voir dans notre texte, juste brièvement, nous allons voir un autre miracle de Jésus. Et c'est Jésus et la tempête. Jésus et la tempête. Et dans ce texte, en fait, les Juifs à l'époque, peut-être même aujourd'hui, ils croyaient que les prophètes pouvaient faire des miracles, qu'ils pouvaient guérir les gens. Mais un prophète ne pouvait pas changer la météo. Et ça, c'est ce qui se passe. Seulement Dieu, il est au contrôle de la nature. Seulement Dieu, il est au contrôle de la pluie et des tempêtes. OK, avant de lire cette histoire, j'aimerais vous demander de m'aider un petit peu. Qui a grandi dans l'église, dans une église? Trois, OK, vous êtes plusieurs. OK, donc je compte sur vous, sur l'histoire. Donc on va essayer de raconter cette histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne les... Donc, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, on va raconter ensemble l'histoire de Jésus et la tempête. Un jour, et puis après on va voir le texte et puis on verra si c'était vrai ou non. Un jour, Jésus... Quand? Il dit à ses disciples... Allons de l'autre côté du lac. Et puis, il ne faut pas regarder le texte, hein, parce que... Non. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis? Jésus, il s'est dormi dans le bateau. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres bateaux avec ce bateau? OK, on verra. Et puis, quoi d'autre? Donc, il dormait dans le bateau. Et puis, et combien de disciples? 12 disciples. Combien de mois dans l'année? Waouh! Ça veut dire que Jésus, il est présent avec nous chaque mois. Et comme quoi, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de janvier. Subhanallah. OK. Et quoi d'autre? Il faut effacer ce que je viens de dire. Hein. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après, donc, il dormait, et puis qu'est-ce qui s'est passé au fond? Il y avait une tempête, et qu'est-ce que la tempête faisait? Voilà, il y avait du vent, et puis il y a aussi l'eau qui est entrée dans le bac. Et puis, qu'est-ce que Jésus il a fait? Il continuait à dormir, Et puis quoi d'autre? Donc, les disciples, quoi? Ils l'ont réveillé pour dire, mais réveille-toi. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Quoi d'autre? Parlez tous à la fois. Au fond, là. Vas-y. Comment? Voilà, nous sommes en train de mourir. Pourquoi tu dors? Mais toi, tu étais là au premier culte. Et puis, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est réveillé et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du gris-gris? Non, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il dit à la tempête, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Tais-toi, silence, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la tempête s'est calmée tout de suite ou bien quelques minutes après? Tout de suite, ok. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Comment? Pourquoi vous avez peur? Vous avez eu peur? Et puis, quelle était la réaction des disciples? Qui est cette? Ils ont commencé à applaudir Jésus? Non, ok. Ils étaient pleins de joie parce qu'ils étaient sauvés de la tempête? On verra. Voilà. Ok, maintenant on va lire le texte et puis on verra comment, si on est... Parce que ce texte se trouve dans les trois, dans Matthieu, Marc et Luc. Et il y a tout cela, si on voit ça tous ensemble, enfin, il y a des choses que Marc il mentionne, que Luc ne mentionne pas, enfin, des choses comme ça. On verra. Donc, Marc chapitre 4. Ce jour-là, donc, ça c'est aussi important, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, voilà, passant de l'autre côté du lac. Ok, jusque maintenant, ça va. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac dans le bateau où il se trouvait. Donc, apparemment, il était déjà dans le bateau. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? D'autres bateaux les accompagnaient. Ah oui. Mais ça, c'est seulement un détail que Marc, il souligne. Donc, en Matthieu et Luc, on ne voit pas ça. Et puis, par la suite, on ne voit pas qu'est-ce qui s'est passé avec les autres bateaux. Enfin, non, on ne sait pas. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait de l'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Pourquoi il dormait? Quand toi tu dors, pourquoi tu dors? Tu es fatigué. Bon, le texte ne dit pas, mais le fait qu'il y a un coussin, ça veut dire qu'il n'a pas juste... Non, il a fait exprès, il a fait exprès parce qu'il avait un coussin pour dormir. Hein? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes... Si on peut regarder le... Voilà. Les disciples... le réveil et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Tu ne t'en soucies pas. Souvent, notre expérience, hein, n'est-ce pas? Tu sais que Jésus, il est dans le bateau avec toi, mais tu dis, mais pourquoi Jésus? Tu es en train de dormir, tu vois pas la situation? Le Western qui devait arriver depuis des semaines, et puis toi, tu dors. Pourquoi tu ne t'en soucies pas? Il s'est réveillé, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Il n'a pas, dans ce texte, il n'a pas prié, il parle directement à la tempête. Comme si on va parler à un enfant qui est en train de désobéir. Arrête, tais-toi, va dans ta chambre. C'est comme ça qu'il parle à la tempête. Le vent tomba et se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Et eux, ils ont commencé à l'applaudir. « Bravo Jésus !» Non, mais eux furent saisis d'une grande crainte. C'est intéressant aussi de voir qu'ils avaient plus peur après le miracle qu'avant le miracle. Déjà dans la tempête, Je ne sais pas si ça vous arrivait d'être dans une tempête. Une fois, quand j'étais petit, on prenait un avion, j'avais 17 ans, on prenait un avion de Abidjan pour aller à Monrovia, au Liberia, chez moi. Il y avait une tempête et l'avion, je croyais que c'était la fin de notre vie. Heureusement, on était tous en famille. On disait, OK, au moins, Seigneur, on va mourir en tant que famille. On a dû aller jusqu'à Freetown pour attendre 3 heures à Freetown avant de revenir à Monrovia parce que la tempête. Mais quand tu es dans la tempête, tu as peur. Mais là, les disciples, ils avaient plus peur après le miracle, d'une grande crainte. Et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Est-ce que ces gens-là le connaissaient Jésus? Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Ce sont des disciples. Comment tu peux être disciple de quelqu'un si tu ne le connais pas? Mais pourtant, ils posent la question, mais qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Ça montre pour moi que parfois, on peut aussi commencer à suivre Jésus sans vraiment, peut-être on a même des doutes, on ne connaît pas exactement qui il est, mais on commence à le suivre et petit à petit, il se révèle à nous. Trois choses à souligner dans le texte et je vais prier à la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous lisez les évangiles, que tous les miracles de Jésus ont commencé par un problème. Une maladie, manque de nourriture, quelqu'un qui est mort, une tempête. En fait, en général, pour expérimenter un miracle, il faut que tu aies un problème. Sans problème, il n'y a pas de miracle. Donc, si tu as un problème, tu es un bon candidat pour un miracle. On a déjà vu qu'il est le maître du sabbat. Mais là, on voit qu'il est le maître, il est maître de la nature. Il dit un mot, tais-toi, silence. Trois choses. La première chose, c'est que si Jésus est Seigneur du sabbat, si la maladie, la mort, les démons, parce que là on va par la suite, il est en train d'aller de l'autre côté du lac et là-bas il va rencontrer un homme qui a plein de démons et là les démons l'écoutent et lui obéissent, Jésus. Donc la maladie obéit. Les démons lui obéissent, la nature lui obéit. Qui es-tu pour lui désobéir? Si il est vraiment Seigneur, pourquoi pas toi? Parce que nous sommes en train de parler de disciples. C'est quoi un disciple? Et on verra par la suite que c'est un disciple, c'est aussi quelqu'un qui obéit à son maître. Je vous pose cette question ce matin. Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie où tu sais que le Seigneur, il attire ton attention pour dire, là, je veux que tu m'obéisses. Et tu es en train de refuser. Si il est Seigneur, il est digne de notre obéissance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jésus regarde, parfois, Jésus regarde la tempête et il dit, calme-toi. Il dit à la tempête, calme-toi. Mais parfois, il reste avec toi dans le bateau et il te dit, calme-toi. Je ne sais pas si je fais comprendre. Parfois, il va arranger la tempête, mais parfois, il va juste dire, toi, calme-toi. Sans arranger, sans faire le miracle de la tempête, il veut faire le miracle dans ta vie. Parfois, tu es là pour bénéficier de la puissance de Dieu, et parfois, ta présence, sa présence te suffit. Souvent, on fait des soucis lorsqu'on oublie l'autorité de Jésus face à la tempête ou quand on oublie l'engagement que Jésus a envers nous. Tu es dans une situation ce matin, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Peut-être c'est un truc qui dure aussi. Ça, c'est les situations les plus pénibles. Parce que une semaine, deux semaines, tu peux supporter la souffrance. Mais après des années, c'est là où ça commence à être plus difficile. Et tu es en train de dire, mais Jésus, tu dors encore. Tu vois ma situation, tu es en train de dormir. Et lui, il veut que tu lui fasses confiance en sa puissance et aussi par rapport à sa présence. Et peut-être ce matin, tu as besoin d'écouter la voix de Jésus qui dit, écoute, je suis là, comme on vient de chanter. La troisième chose, c'est quelque chose que certains théologiens pensent par rapport à cette histoire. Marc, il fait exprès pour raconter cette histoire de la même manière qu'une autre histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, ceux qui ont fait l'école du dimanche, vous connaissez une histoire dans l'Ancien Testament où il y avait un homme dans un bateau et l'homme dormait. Hein? Jonas. C'est intéressant, hein? Parce que Jésus et Jonas, tous les deux, était dans le bateau. Le bateau a été pris pour tous les deux par une tempête. Tous les deux, Jonas et Jésus, dormaient calmement. Et dans tous les deux cas, les marins d'un côté et puis les disciples de l'autre côté essayaient de le réveiller pour dire, mais on va mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les deux histoires, il y a aussi une intervention miraculeuse. Et dans les deux histoires, les marins et aussi les disciples, ils étaient plus terrifiants après le miracle qu'avant le miracle. Quelle est la seule différence il y a deux ou trois points de différence, mais quelle est la différence entre l'histoire de Jonas et de Jésus? Pour calmer la mer, pour calmer la tempête, qu'est-ce qu'il fallait pour... dans le cas de Jonas. On l'a jeté. Hein? Il dit, ben voilà, jette-moi dans la mer et puis vous allez voir. Est-ce que Jésus s'est jeté dans la mer? Dans l'histoire de Marc, certains théologiens pensent que Marc y fait exprès pour décrire cette histoire parce que Un des versets clés dans l'évangile de Marc, c'est Marc chapitre 10, le verset 45, où est écrit, le Fils, Jésus lui-même, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, de s'élivrer lui-même pour les autres. Vous voyez? Donc, quelque part, Marc, il est en train de dire, mais ce Jésus qui fait beaucoup des miracles, qui peut parler même à la tempête, en fait, son but, ce n'est pas de faire tout cela, en fait, parce que lui, il va mourir, en fait, il va se donner lui-même pour l'humanité, pour ses disciples. Il va se jeter dans la mer. Il y a un théologien qui dit ça dans la tempête du péché. Il devient péché pour nous. Vous connaissez cette histoire déjà, peut-être plusieurs, que à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu parce que nous sommes tachés par le péché, nos actes mauvais, nos pensées mauvaises, nos paroles mauvaises, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Jésus, il est venu, il a pris sur lui-même nos péchés à la croix. Il est mort à notre place, à la croix. Lui qui n'a pas connu le péché, il est mort pour nous. Il est ressuscité le troisième jour. Justement, en Matthieu chapitre 10, je pense, Jésus, il va dire, comme Jonas, comme pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas était dans le ventre de la mer, c'est de cette façon-là que le Fils de l'homme aussi doit, pendant 3 jours et 3 nuits, sera dans le ventre de la terre. C'est-à-dire que Jésus, il est venu pour enlever ce péché, pour mourir à notre place. Et s'il a fait ça, je parle à ceux qui connaissent Jésus comme leur Seigneur. Vous dites, voilà, il est mon Sauveur, je crois qu'il est mort à la croix pour moi, il s'est sauvé, il m'a sauvé de mes péchés. Vous connaissez, certains parmi vous, vous connaissez ça, vous pouvez dire ça dans le sommeil, tout ça, vous connaissez très bien cette histoire. Et s'il s'est donné à la croix pour nous, ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Écoutez-moi bien, parce que certains parmi vous, vous avez des difficultés et vous êtes vraiment coincés dans certaines difficultés. Vous dites, mais comment Seigneur, mais pourquoi Seigneur, tu m'as oublié, tu m'as abandonné? Mais s'il est mort à la croix pour tes péchés, ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Sa présence et sa puissance, ces deux choses ensemble. Il peut parler à la tempête comme il peut rester avec toi dans la tempête. En fait, tu peux, en tant que chrétien, tu ne peux pas perdre. Est-ce que vous voyez le truc? Dans la difficulté, si Dieu n'enlève pas la difficulté, il est avec toi. Gloire à Dieu. Mais il y a des moments où il va enlever la difficulté. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Mais écoutez-moi bien, cette confiance dans sa présence et dans sa puissance est réservée seulement pour ceux qui le connaissent comme Seigneur et Sauveur. Il y a deux ans, j'avais un ami tunisien, on va l'appeler Ahmed, même s'il ne s'appelle pas Ahmed. Je vais l'appeler Ahmed. Ahmed, c'était un homme assez, il avait des moyens, on va dire, riche, je veux dire. Depuis des mois, il me dit, William, je suis ami avec lui depuis 15 ans. Et un jour, il dit, William, je pense que depuis des années, on m'a jeté un sort, on m'a fait de la magie, et c'est pour cette raison que je ne peux pas avancer dans mes affaires. Il croit que quelqu'un a jeté un sort contre lui, qui voulait l'attaquer et tout ça. J'ai dit, OK, bon, je vais prier pour toi. Il me dit, attends, William, excusez-moi de le dire comme ça, hein. Toi, tu es blanc. J'ai dit, alors, mais vous, les blancs, vous ne comprenez pas ça. Mais vous travaillez avec des pasteurs africains. Moi, j'aimerais parler à un pasteur africain. J'ai dit, OK. J'appelle un pasteur, le pasteur Pierre Ezoua. Peut-être vous le connaissez, il est à Lawina. J'ai dit, Pierre, j'ai cet ami, Ahmed, qui j'explique la situation. Est-ce qu'on peut venir te voir? Il dit, non. J'ai dit, mais Pierre, pourquoi? Il dit, mais est-ce qu'il a pris une décision d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur? J'ai dit, non, pas encore. Il dit, mais moi, je ne veux pas parler avec lui. Parce que s'il y a quelque chose comme un démon qui sort, s'il n'est pas prêt à accepter le Christ, selon la parole, il va revenir plus nombreux. Donc moi, je ne veux pas créer ça, je ne veux pas le voir. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, je l'appelle encore, j'ai dit, quand même, Pierre, bon, c'était un ami, quand même, il faut le voir, tout ça. Donc, il dit, moi, je vais réfléchir. 2 semaines après, il m'appelle. Et puis, OK, tu peux l'amener ici. Donc, j'ai dit à mon ami Ahmed, j'ai dit, OK. Donc, on est parti à La Ouina chez le pasteur Pierre Rézois. Et là, on est là, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lire le psaume 23. J'ai rien compris. J'ai dit, Pierre, on est là parce que le gars, il a de l'influence de l'ennemi qui est dans sa vie, il faut chasser ce démon, machin, tout ça. Pierre, il lit le psaume 23. Quand on vient de chanter, hein, le Seigneur qui commence, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, il aime ce psaume, hein, mon ami Ahmed. Bah, on était en train de voir... Même pendant la vallée de la mort, tu seras avec moi. On a lu le truc, mon ami Ahmed était content. Il dit, mais moi j'aime bien ça. La présence de Dieu, ouh, il était, waouh, ok, c'est bien. Ok, vas-y, maintenant on peut procéder à, tu vois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait. Et Pierre, le pasteur Pierre, il dit, mais ça commence avec quelle phrase? Donc Ahmed, il dit, le Seigneur est mon berger. Il dit, mais tout ça, c'est réservé si le Seigneur est ton berger. Est-ce que le Seigneur est vraiment ton berger? Puis le gars dit, ah, non. OK, fin de discussion. On est parti. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Voyez, la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie, c'est réservé pour ceux qui le connaissent comme Seigneur, pour ceux qui le connaissent comme berger. Tu es peut-être ici dans cette église ce matin. Peut-être c'est la première fois que tu viens, peut-être c'est la 10e, peut-être c'est la 2e, enfin, peut-être tu es là depuis des années et tu connais toutes ces histoires, mais tu n'as jamais accepté Jésus comme ton maître et comme ton berger. Nous allons prendre un moment de prière. Et dans quelques moments, je vais vous demander... Si c'est votre intention, peut-être c'est la première fois dans ta vie, peut-être tu n'as jamais fait ça auparavant, de dire, Seigneur, je ne connais pas toute la théologie derrière ça, mais je suis prêt, je veux te suivre. Je veux te suivre, je vais t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je vous invite à quelques moments de calme, de silence, et nous allons prier ensemble à la fin. Je vous invite à garder les yeux fermés. Et si tu es là et tu as pris, tu étais interpellé par ce message, peut-être tu te dis, jamais dans ma vie, auparavant, j'ai pris cette décision de suivre Jésus, de l'accepter comme sauveur, de croire qu'il est venu pour enlever mes péchés, pour me donner une nouvelle vie avec Dieu. Si c'est ton désir ce matin de prendre cette décision, j'aimerais juste vous demander, pas plus maintenant, mais juste de lever la main, là où vous êtes, juste de lever la main. Si tu as levé la main, si tu veux nous parler après le culte, j'aimerais vous demander juste après le culte de venir nous voir. On aimerait aussi vous expliquer en détail ce que cela veut dire d'être disciple de Jésus. Mais peut-être tu es là ce matin et tu es face à une tempête et ton cœur est troublé. Tu as peut-être besoin d'écouter la voix du Seigneur dans ta vie. Calme-toi, je suis avec toi. Mais peut-être tu veux aussi prier qu'il parle et il enlève la tempête. Il peut le faire. Il peut le faire. On aimerait prier pour vous aussi. Vous pouvez aussi lever la main là où vous êtes. D'accord. Merci. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui ont levé la main et puis pour d'autres qui passent par une tempête. Et ils ont besoin d'écouter ta voix ce matin. Seigneur, que tu les remplisses de ta paix, une assurance que tu es avec eux. Pour la gloire de ton nom, nous prions. Amen.